Bonjour Serge Martin.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'ouragan Harvey à l'attaque de la côte sud des États-Unis. Depuis 5 heures ce matin française, des vents de plus de 200 km/h soufflent sur le Texas. Nous ferons le point dans un instant avec l'un de nos correspondants à New York, Marco Walter. Deux attaques des forces de l'ordre au couteau hier soir, deux attaques à caractère terroriste, l'une à Bruxelles où l'assaillant a été tué, l'autre devant le palais de Buckingham à Londres. À Paris, les femmes de militaires s'apprêtent à manifester cet après-midi leur colère devant le manque de moyens. Dans l'actualité également, les rassemblements politiques, celui des Insoumis à Marseille et celui des Républicains au Touquet. Emmanuel Macron est lui sur le chemin du retour de sa tournée en Europe de l'Est après avoir froissé quelque peu les Polonais. Dernier week-end d'août, week-end chargé sur les routes dans le sens des retours, alors que sur place, les vacanciers mettent à profit leurs dernières heures. Reportage dans un camping de Martigues à la fin de ce journal. Et puis victoire du PSG sur Saint-Etienne, battu 3-0 hier soir au Parc des Princes. Et reprise du top 14 en rugby, rendez-vous dans le journal des sports présenté par Xavier Monferrand.
France Inter.
Direction tout de suite les États-Unis où l'ouragan Harvey a commencé à attaquer cette nuit la côte sud du pays, en commençant donc par le Texas, classé 4 sur une échelle qui en compte 5. Cet ouragan fait peur et a déjà suscité une immense mobilisation. Marco Walter, vous vous trouvez à New York. Alors quelles sont les premières images et les premiers ravages provoqués par cet ouragan ?
Eh bien écoutez, pour l'instant, vous le savez, il fait nuit sur place, il est 1h du matin sur la côte texane, donc au-delà des coupures d'électricité et de certains témoignages qui rapportent des destructions de maisons, il est encore assez difficile de mesurer l'ampleur des dégâts. On sait en revanche que Harvey vient tout juste d'être rétrogradé de catégorie 4 en catégorie 3, donc le vent souffle un peu moins fort qu'à l'arrivée sur la côte tout à l'heure. C'était prévu, Harvey va continuer à perdre en intensité, mais traverser l'intérieur des terres jusqu'en milieu de semaine prochaine au Texas, mais aussi en Louisiane voisine. Et c'est ce qu'on redoute le plus, ce sont les inondations. On s'attend à jusqu'à 80 cm de pluie à certains endroits, dans une région où la pluie est très rare et dont les sols vont peiner à absorber toute cette quantité d'eau. Ceux qui n'ont pas suivi le plan d'évacuation, ils sont nombreux, risquent de se retrouver isolés, pris au piège. Enfin, il y a les dégâts matériels, on craint pour les nombreuses raffineries dans la région, pour les infrastructures. À chaque passage d'ouragan de cette puissance, les dégâts se chiffrent en milliards de dollars. Mais encore une fois, il fait nuit, il faudra certainement attendre le lever du jour pour avoir une image, disons, plus précise de l'impact de cet ouragan.
Marco Walter, en direct de New York. Aux États-Unis toujours, le président Donald Trump a indiqué cette nuit dans un tweet avoir signé une déclaration de catastrophe naturelle permettant aux États touchés par l'ouragan de pouvoir recourir à tous les moyens fédéraux nécessaire. Donald Trump qui par ailleurs a gracié dans la soirée le très controversé shérif de 85 ans de l'Arizona, condamné pour avoir fait preuve d'un zèle excessif dans sa traque aux immigrés clandestins. Le président américain enfin qui a également ordonné au Pentagone de ne plus recruter de personnes transgenres dans l'armée. À l'étranger encore, en bref, les forces de l'ordre ont été prises pour cible hier soir dans deux capitales européennes, à Bruxelles. Tout d'abord où deux militaires ont été agressés par un homme porteur d'un couteau. Ce dernier a été abattu, un acte terroriste selon les autorités. Et puis, à Londres, où un homme d'une vingtaine d'années, armé d'un couteau, lui aussi, a agressé les deux policiers qui tentaient de l'interpeller devant le palais de Buckingham, le palais de la Reine. Les deux policiers ont été légèrement blessés. L'agresseur a été arrêté dans le cadre de la législation antiterroriste.
En France, Serge Martin, les femmes des militaires sont mobilisées dans le cadre du plan Vigipirate. Elles ont décidé de manifester.
Oui, c'est à 13h cet après-midi que ces femmes de militaires se sont donné rendez-vous devant les Invalides à Paris pour exprimer leur colère et parler en nom et place de leurs époux tenus à un droit de réserve. Des compagnes bien décidées à réclamer de meilleures conditions de travail pour leurs proches. Thibault Lefebvre.
Elles s'appellent Laetitia, Nour, Nénette et Sophie, des prénoms d'emprunt. Elles parlent au nom de leurs maris, de leurs enfants et de leurs proches. Dans leur viseur, les conditions de travail dans l'armée, en retard dans le versement des primes, inefficacité du système de paix informatisé, insalubrité des logements, vétusté du matériel, manque de soutien psychologique pour les soldats atteints de stress post-traumatique, un ras-le-bol que les militaires n'ont pas le droit d'exprimer, alors elles prennent la parole. Le déclencheur, l'annonce des coupes budgétaires, 850 millions d'euros cette année, environ 2,5% du budget des armées, et la démission du général Pierre de Villiers cet été. La dernière manifestation des femmes de militaires remonte à 5 ans. Elles avaient été reçues au sujet de soldes et de primes impayées. Elles devraient être un demi-millier en début d'après-midi aux Invalides. Elles quitteront l'esplanade vers 18h pour ne pas, disent-elles, surcharger surcharger le travail des forces de l'ordre.
Thibault Lefèvre, 8h05, la suite du journal Serge Martin. Fin de la tournée d'Emmanuel Macron en Europe de l'Est. Une tournée qui s'est achevée sur fond de polémique.
Les Polonais ont en effet très mal pris les propos du chef de l'État français souhaitant réformer la directive sur le travail détaché. Réforme dont ne veut pas entendre parler la Pologne. Le peuple polonais mérite mieux que cela et la première ministre aura beaucoup de mal à s'expliquer qu'il est bon de mal payer les Polonais, a ainsi déclaré Emmanuel Macron, ce en quoi la première ministre polonaise a taxé le jeune président français d'arrogance, mettant la tonalité de ses propos sur le compte d'un manque d'expérience. Vous entendrez les autres réactions polonaises dans le journal de 9h. Emmanuel Macron et sa politique au cœur des débats de l'Université de la France Insoumise, actuellement réunie à Marseille, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon qui prépare activement la mobilisation du 23 septembre prochain contre la réforme du droit de travail. Marseille, Laurence Perron.
Nous sommes là pour prendre le pouvoir, pas pour un baroud d'honneur, répètent sur le campus les députés de la France Insoumise. Manuel Bompard, le directeur des campagnes du mouvement, veut croire que ça pourrait même arriver plus vite que prévu.
Monsieur Macron a dit que les Français ne voulaient pas réformer le pays. Bon, d'abord, s'il n'est pas capable de réformer le pays, il peut s'en aller et nous, on sera capable de le faire.
L'espoir chez les militants est dopé notamment par la chute de popularité d'Emmanuel Macron. Hugo, jeune militant parisien.
Je pense que la chute ne fait que commencer.
Evelyne, de Marseille, acquiesce.
On s'attendait pas à ce que ça aille si vite. On s'attendait pas à ce que ça soit si profond. Quand j'ai entendu ce qu'il a dit en Roumanie, les Français détestent les réformes. Il dit ça en pays étranger. Il a eu un mépris de la classe populaire, mais il a un mépris du peuple français. Alors oui, ça va être plus facile pour nous, je pense, de mobiliser.
Tous attendent beaucoup de la manifestation du 23 septembre contre la réforme du Code du travail. Une étape pour Ahmed dans la marche vers la victoire.
Et là, le fait de continuer la lutte, d'entretenir la flamme, d'entretenir le combat, ça martèle le fait que la France insoumise est présente, que c'est un combat sur la durée et qu'on est l'opposition actuelle.
L'opposition d'aujourd'hui et la majorité de demain, c'est ce que l'on enseigne très sérieusement dans ces amphis d'été insoumis. À Marseille, Clémence Bonfils, Laurence Perron, France Inter.
Et puis autre rassemblement politique, celui du Parti Les Républicains, actuellement réuni au Touquet dans le cadre de son campus d'été, au cœur des discussions, le choix du nouveau président du parti dont le vote aura lieu les 10 et 17 décembre prochains.
C'est le dernier week-end de vacances pour les Aoussiens qui s'apprêtent à prendre le chemin du retour.
Oui, des retours qui s'annoncent chargés, vous l'avez entendu juste avant ce journal, sur les routes de France, tout ce week-end, de couleur rouge selon Bison Futé. Mais ce week-end est aussi l'occasion pour les vacanciers du mois d'août de profiter de leurs derniers instants, comme a pu le constater Mélanie Kutzelevitch dans ce camping de Martigues sur la Côte Bleue.
Au bord de la piscine, Daniel, retraité, surveille ses petits-enfants. Son programme est bien rempli pour cette dernière journée.
On finit surtout le livre. Puis en plus, c'est fabuleux parce qu'on a le soleil et l'eau est chauffée, donc c'est bien. Restaurant ce soir, tranquille, pour laisser le cabanon propre. Là. Et puis un dernier cocktail, ils sont merveilleux, les cocktails au bar.
Voilà. Un peu plus loin, Charlotte vient de région parisienne. Pour elle, le réconfort, ça passe après l'effort.
Là, tout de suite, on va ranger le bungalow. Et puis, une fois que tout sera dans la voiture, et ben, on profitera de deux petites dernières heures à la piscine.
Pas de piscine pour Isabelle, elle savoure ses derniers instants devant son cabanon. Les vacances, c'est terminé et c'est bien triste.
Oh oui, malheureusement, hein, parce qu'on était très bien ici. Hein. On connaît le camping depuis plus de 30 ans, donc on est toujours satisfait. Les animations, la mer, la piscine, visiter tous les alentours.
Il va falloir reprendre peu à peu un rythme normal pour Delphine qui rentre à Castres avec sa famille, mais avant...
Plage, bronzage et apéro ce soir. On reprend lundi, donc ça va être difficile. Les enfants, il leur reste une semaine, mais c'est pas grave, ils vont commencer à se coucher plus tôt pour réapprendre à s'organiser. Les devoirs, oui, on va y penser.
Marseille, France Bleu Provence, Mélanie Kuzelevitch pour France Inter.
Voilà, une semaine pour se réorganiser. Ça ne sera pas trop, Laetitia Gaillet.
Merci. Comme vous y allez. Merci Serge Martin, retournez dans vos pénates. On passe au sport.
France Inter. Le 6-9 de l'été.
Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Laetitia.
On commence, comme par hasard, par le football, Xavier, avec le PSG, comme par hasard, qui poursuit, comme par hasard, sur sa lancée.
Ouais, comme par hasard, hein, sans faute en Ligue 1 pour les joueurs du Paris Saint-Germain. 4 matchs, 4 victoires, c'est pas compliqué. La dernière, hier soir, face à Saint-Etienne, en ouverture donc de la 4e journée de championnat. Un succès, 3-0 contre Saint-Etienne. Ça semble être le tarif, hein, cette saison. Doublé de Cavani et un but de Thiago Motta. Alors, le PSG n'a pas fait son meilleur match, loin de là, mais il continue quand même d'impressionner. Et ce n'est sans doute que le début, Jérôme Vallin.
Saint-Etienne était venu invaincu et sans avoir pris un seul but. Les Verts repartent avec leur première défaite et 3 buts encaissés. Le pire, c'est qu'en face, ce n'était pas un grand Paris Saint-Germain à l'image de sa première période insipide. Seulement voilà, même face à un PSG en manque de créativité, il y a une forme d'impuissance, reconnaît le capitaine stéphanois Loïc Perrin.
Ils ont tellement des qualités individuelles qu'à tout moment, ils peuvent faire une différence. Alors c'est vrai que je pense qu'ils sont peut-être pas encore au top, mais en face, on a des joueurs, enfin pas le même métier quoi.
Au total, le PSG a inscrit 14 buts depuis le début du championnat, une moyenne de plus de 3 buts par match, l'un des départs les plus tonitruants de l'histoire de la Ligue 1. Et pour le milieu de terrain, Thiago Motta, ce réalisme offensif est prometteur pour la suite.
On a eu l'expérience de l'année dernière, qu'on n'a pas marqué autant de buts. Je pense que Monaco a été supérieur à ce niveau, mais bon, j'espère qu'on a appris de notre erreur et que cette saison, on commence différemment, car avec 4 victoires et avec des buts, autant de buts marqués, c'est très important.
Avant la trêve internationale, le PSG est seul en tête de la Ligue 1. Il n'y a que Monaco qui jouera demain contre Marseille, qui peut maintenant revenir à sa hauteur.
Oui, avant Monaco-Marseille, demain, eh bien Nantes reçoit Lyon cet après-midi à 17h15. Et puis ce soir, 5 matchs à suivre. L'OGC Nice est attendu à Amiens. Bordeaux accueille 3. Le stade de Caen, reçoit Metz. Montpellier se rend à Dijon et Toulouse accueille le stade Rennais. Coup d'envoi des rencontres à 20h à suivre, évidemment, dans le multiplex de France Info, présenté par Jacques Vendroux.
Et c'est désormais officiel, Xavier, le joueur français le plus cher de l'histoire du foot a rejoint le Barça.
Oui, 147 millions d'euros bonus compris pour Ousmane Dembélé, qui va donc succéder à la star brésilienne Neymar en Catalogne. Alors qu'il évoluait au Borussia Dortmund, l'attaquant originaire de Normandie est passé du Stade Rennais au Barça en 2 ans de carrière à 20 ans. Il devient ainsi le 2e joueur le plus cher de l'histoire, après son prédécesseur, donc Neymar, à Barcelone. Portrait d'une ascension fulgurante signé Bertrand Queneut.
Son ascension est aussi rapide que ses courses sur les ailes d'un terrain de foot. Né à Vernon dans l'Eure, Ousmane Dembélé grandit à Évreux et débute le football dans le club du quartier de la Madeleine, d'où est aussi originaire un certain Steve Mandanda. C'est là, et alors qu'il n'a que 13 ans, que les recruteurs de plusieurs clubs repèrent ses qualités hors normes. Ils sont alors nombreux à lui faire les yeux doux, mais Dembélé et son clan choisissent finalement le centre de formation du Stade Rennais. 5 ans plus tard, un titre de meilleur joueur de son groupe en CFA et plusieurs convocations avec les équipes de France jeunes en poche. Voilà que l'attaquant est jeté dans le grand bain. 6 novembre 2015, premier match de Ligue 1, et 15 jours plus tard, premier but pour sa première titularisation avec les Rouges et Noirs. Au total, Dembélé en marquera 12 au cours de ses 26 rencontres dans le championnat de France. De quoi attirer l'attention cette fois du Borussia Dortmund, club allemand avec lequel il s'engage pour 5 ans et grâce auquel il obtient ses premières sélections chez les Bleus. Mais aujourd'hui, une année seulement après son arrivée outre-Rhin, le voilà au FC Barcelone. Les Catalans voient dans ce Normand, âgé de seulement 20 ans, le remplaçant du grand Neymar.
Un podium des transferts fou cet été, qui pourrait bien être complété dans les prochaines heures par le petit prodige Kylian Mbappé, qui devrait quitter l'AS Monaco pour rejoindre donc Neymar au Paris Saint-Germain.
Voilà pour le foot. Maintenant, la fin des vacances pour les rugbymen avec la reprise du top 14 aujourd'hui.
Ouais, et moins de 3 mois après son sacre, Clermont va tenter de conserver son bouclier de Brennus. Les Auvergnats, en tout cas, partent en position de favoris cette saison. Mais pour le déplacement à Bordeaux-Bègles ce soir, ils seront privés de 12 joueurs majeurs. C'est pas rien, des blessés, des suspendus et des internationaux au repos forcé du fait de la nouvelle convention entre le 15 de France et les clubs. En tout cas, pour le capitaine Damien Chouli, Clermont a toujours de grosses ambitions.
L'appétit vient en mangeant, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir décroché ce titre, c'est une grande satisfaction pour tout le monde. Et je pense que voilà, on a tous envie de continuer et de pas s'arrêter en suivant mon chemin. C'est ce que j'avais dit. J'espère que ce sera le début de quelque chose.
On le sait, la confirmation, c'est presque le plus dur. Depuis 5 ans, impossible de conserver le bouclier, c'est ça le plus dur.
Le champion en titre, après chaque fois qu'il va se déplacer, ben voilà, les mecs vont recevoir le champion. On prépare pas un match de la même façon. Et donc on va être attendu partout. Et donc ça va être à nous d'essayer d'élever notre niveau et d'essayer d'aller chercher encore et toujours la progression.
Alors Bordeaux-Bègles, Clermont, c'est à 20h45, mais c'est le Stade Toulousain qui ouvre la saison de rugby cet après-midi du côté d'Oyonnax à 15h10, puis à 18h. Le Racing accueille Castres, Montpellier reçoit Agen, le Stade Français affronte Lyon et La Rochelle est attendue à Brive. Demain, Toulon recevra la section paloise. Toujours en rugby, les joueuses de l'équipe de France féminine remettent le bleu de travail. Aujourd'hui, malgré la déception après leur échec en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Angleterre, les Françaises vont tenter aujourd'hui d'aller chercher une nouvelle médaille de bronze, comme en 2014 à Paris. Cette fois-ci, ce sera face aux États-Unis à Belfast et ce sera à partir de 18h.
Et puis l'Euro de volley, il commence mal pour les Bleus.
Oui, premier match et première défaite hier soir pour l'équipe de France de volley. La team Yavbou, championne d'Europe en titre, elle vient s'est inclinée 3-7 à 2 face à la Belgique hier soir à Katowice en Pologne. Les Français sont tombés de haut, mais ils auront l'occasion de se relever dès demain. Il faudra l'emporter face aux Pays-Bas.
Merci Xavier Monferrand. La météo du jour avec Jean-Michel Golinski.
Ce dernier week-end d'août s'annonce chaud avec cet après-midi des pointes à 35 degrés en Rhône-Alpes et sur l'Aquitaine, l'Auvergne et le Midi-Pyrénées avec à la clé le maintien de la vigilance orange canicule pour les départements de la Loire, du Puy-de-Dôme et du Rhône. Il fera 25 à 30 degrés au nord de la Loire, 30 à 34 sur le centre, le Poitou-Charentes, la Bourgogne, l'Alsace, la Franche-Comté et la Provence, 29 dans le golfe du Lion. Ce matin, le vent marin va maintenir un temps maussade jusqu'à la Garonne, mais l'évolution sera favorable. Par contre, le vent d'OTAN va se renforcer, notablement en journée. Entre la Manche, la Loire et la frontière belge, les fortes brumes seront suivies d'éclaircies. Partout ailleurs, le soleil va rapidement s'imposer, avec pour l'après-midi un risque d'ondées orageuses en montagne. Puis ce soir, des Pyrénées au Pays de la Loire et sur le centre.
Merci Jean-Michel Golinski.